VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 21 février 2022. Jean-Roger Biot à ce micro, bonsoir à tous, voici le sommaire du journal. Au Mali, le Parlement intérimaire entérine jusqu'à 5 ans de transition avant des élections. Le Nigeria affirme enquêter sur une frappe meurtrière qui a fait 7 morts au Niger. En Égypte, John Kerry, l'émissaire américain pour le climat, plaide pour que plus de pays s'engagent à la COP27. L'Ukraine demande une réunion immédiate du Conseil de sécurité de l'ONU face à la menace d'une invasion russe. Et ne manque pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Au Mali, l'Assemblée tenant lieu d'organes législatifs depuis la prise de pouvoir par les militaires a entériné ce lundi une période de transition pouvant aller jusqu'à 5 ans avant l'organisation des élections et un retour des civils à la tête du pays. Cette décision est prise malgré les sanctions régionales imposées à Bamako pour des élections retardées. Le point avec Nani Talani.
Le Conseil national de transition, contrôlé par les militaires et qui compte 121 sièges, a approuvé par 120 voix une révision de la charte de la transition qui dispose que la durée de la transition sera conforme aux recommandations formulées lors des consultations nationales de décembre 2021. Ces assises préconisaient une transition de 6 mois à 5 ans. L'Assemblée maintient le flou sur la date à laquelle des élections pourraient avoir lieu, alors que la question donne lieu à un bras de fer entre les autorités maliennes d'une part et d'autre part l'Organisation des États ouest-africains, la CEDEAO, et une partie de la communauté internationale. La version originelle de la charte, promulguée par les militaires en octobre 2020, fixait la durée de la transition à 18 mois avant que les militaires n'expriment leur intention de rester au pouvoir 4 ou 5 années supplémentaires, un délai que la CEDEAO avait qualifié de totalement inacceptable. En janvier, l'organisation a sanctionné une telle décision en infligeant de lourdes sanctions économiques et diplomatiques au Mali, avec un embargo commercial et financier et la fermeture des frontières.
La CEDEAO a annoncé dans un communiqué que le médiateur pour le Mali, Goodluck Jonathan, se rendrait jeudi à Bamako. Quant au Conseil de sécurité de l'ONU, il devrait tenir demain mardi une réunion informelle à huis clos sur le Mali à la demande de la France qui souhaite expliquer à ses membres ses décisions de retrait des opérations françaises, Barkhane et européennes, Takuba, selon des diplomates. L'impact des décisions française sur la mission de casque bleu à l'ONU au Mali, la MINUSMA, sera aussi abordée lors de cette session organisée sous la présidence de la Russie en charge de la direction tournante du Conseil de sécurité pour le mois de février, selon les mêmes sources. L'armée nigériane a déclaré aujourd'hui qu'elle enquêtait sur des révélations provenant du Niger voisin selon lesquelles elle aurait accidentellement tué des enfants lors d'une frappe aérienne visant un groupe armé à la frontière. Les détails avec Ginny Kapubu-Villa.
Des troupes ont été déployées dans le nord-ouest du Nigeria, où des criminels lourdement armés, connus sous le nom de bandits, terrorisent les communautés, forçant plus de 70 000 personnes à fuir vers le sud du Niger, selon les chiffres de l'ONU. La frappe aérienne nigériane a tué 7 enfants et 5 blessés vendredi, selon un gouverneur du Niger. Il y a eu une erreur avec les frappes nigérianes à la frontière qui ont fait des victimes sur notre territoire dans le village de Nachadé, a déclaré Shaibu Abubakar, le gouverneur de la région de Maradi. Le Nigeria n'a ni confirmé ni démenti une frappe aérienne dans cette zone, mais a ouvert une enquête. Depuis 2018, le Niger a renforcé ses patrouilles militaires le long de sa frontière avec le Nigeria pour empêcher les incursions de bandits responsables de meurtres et d'enlèvements de commerçants, l'échange de rançons, de même que de vols de bétail.
Centrafrique, le procès de Mahamat Saïd Abdelkhani, un commandant présumé de la coalition rebelle Séléka, va s'ouvrir le 26 septembre, a indiqué dans un communiqué la Cour pénale internationale. Mahamat Saïd Abdelkhani, 51 ans, est accusé de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis entre avril et août 2013 à Bangui contre des personnes détenues, perçues comme étant des soutiens de l'ancien président François Bozizé, chassé du pouvoir par la Séléka. le cas. Deux anciens chefs de guerre centrafricains, Patrice Edouard Ngaïsona et Alfred Yekatom, qui dirigeaient des milices anti-Balaka, luttant contre la SELECA, sont actuellement jugés par la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Des milliers de Soudanais ont encore défilé aujourd'hui contre le pouvoir, alors que les autorités ont libéré des dizaines de prisonniers de la répression qui dure depuis le putsch d'octobre. Les forces de sécurité ont tiré des grenades lacrymogènes sur des manifestants à Khartoum et dans ses banlieues ainsi qu'à Port-Soudan. Au même moment, l'émissaire de l'ONU pour les droits humains, le Sénégalais Adama Dieng, rencontrait à Khartoum dirigeants, diplomates et membres de la société civile pour tenter de faire la lumière sur la répression qui a fait 82 morts depuis le putsch, selon des médecins pro-démocratie. Un attentat à la bombe visant le convoi d'un responsable régional a fait 2 morts et 3 blessés ce lundi dans le nord-est de la Somalie. Le président de l'État semi-autonome du Puntland, Saïd Abdoulaye Deni, se rendait dans la capitale commerciale régionale, Bosaso, lorsqu'un puissant engin explosif placé sur la route s'est déclenché au passage d'un véhicule du convoi militaire qui l'escortait. M. Deni n'a pas été blessé dans l'attaque revendiquée par les djihadistes Shebab, selon la police. Plus de pays doivent rejoindre la cause de la lutte contre le changement climatique lors de la COP27 de novembre prochain en Égypte. C'est ce qu'a plaidé aujourd'hui au Caire John Kerry, l'envoyé spécial américain pour le climat. Le point avec Rosine Munezero.
Aux côtés du ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, en charge de l'organisation de la prochaine conférence sur le climat en novembre à Sharm el-Sheikh sur la mer Rouge, John Kerry a salué des progrès significatifs lors de la précédente édition. À Glasgow, nous sommes parvenus à convaincre 65% du monde économique. Il faut maintenant que plus de pays rejoignent le mouvement, a-t-il déclaré. Nous parlons d'une menace contre notre planète qui force à réfléchir à la façon de la gérer, en se basant sur la science, les mathématiques, la physique. Ce qui est en train d'arriver arrive à cause des humains, des choix que nous faisons ou pas, a-t-il ajouté. Aujourd'hui, nous avons discuté en détail des priorités de la présidence égyptienne de la COP27, a expliqué le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Shoukry. L'Égypte, dont la côte nord est menacée par la montée des eaux et qui voit ses coraux mourir avec le réchauffement de la mer Rouge, multiplie déjà les projets pour atteindre son objectif de 42% de son électricité provenant d'énergies renouvelables d'ici 2035.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Ukraine demande une réunion immédiate du Conseil de sécurité de l'ONU face à la menace d'une invasion russe. Les derniers développements avec Jacques Aristide.
La demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky se fonde sur un accord de 1994 garantissant l'intégrité et la sécurité de l'ex-république soviétique en échange de l'abandon des armes nucléaires héritées de l'URSS. D'après les renseignements américains, une invasion de la Russie chercherait à écraser violemment le peuple ukrainien. C'est du moins ce qu'affirme le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan. Washington a déjà averti l'ONU de l'existence, selon les Américains, d'une liste noire établie par Moscou d'Ukrainiens à éliminer en cas d'invasion. Moscou dément de son côté tout projet d'attaque, mais demande des garanties que l'Ukraine ne rejoindra jamais l'OTAN et que les puissances occidentales retirent leurs forces d'Europe de l'Est, ce que les États-Unis et leurs alliés refusent. Les ministres français et russes des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian et Sergueï Lavrov, sont convenus de se rencontrer ce vendredi à Paris pour des consultations préparatoires en vue d'un sommet sur l'Ukraine. Mais pour le Kremlin, il est prématuré de parler d'un tel sommet. Pendant ce temps, le président Vladimir Poutine indique qu'il décidera aujourd'hui si la Russie va reconnaître l'indépendance des 2 territoires séparatistes de l'est de l'Ukraine, une décision qui risque de mettre fin au processus de paix dans ce conflit.
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a annoncé qu'il devrait rencontrer jeudi à Genève son homologue américain, Anthony Blinken. Les efforts visant à remettre sur les rails l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien ne peuvent aboutir que si Washington lève les sanctions majeures, a déclaré aujourd'hui le président de la République islamique, Ibrahim Raisi. Le président s'est montré plus prudent que le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, qui avait affirmé plus tôt que les négociations de Vienne avaient fait des progrès significatifs. La junte au pouvoir en Birmanie a contesté aujourd'hui devant les juges la compétence de la Cour internationale de justice pour se prononcer sur l'accusation de génocide contre les Rohingyas, minorité musulmane du pays. La délégation birmane qui remplace l'ex-dirigeante civile Aung San Suu Kyi devant la plus haute instance judiciaire des Nations Unies estime que la requête déposée par la Gambie au nom de l'Organisation de la coopération islamique n'est pas recevable. Et puis ici à Washington, la tension est montée à l'approche de l'annonce par Joe Biden de sa candidate pour la Cour suprême. Le président démocrate a promis, vous le savez, de nommer pour la première fois une femme noire au sein du Temple du droit américain. Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Mouhamadou Oufa.
7 accords de coopération ont été conclus entre la RDC et la Turquie au terme d'une brève visite du président turc Recep Tayyip Erdogan à Kinshasa. Les accords portent entre autres sur la construction du centre des finances de Kinshasa, sur l'infrastructure et le transport fluvial sur le fleuve Congo et sur la construction de 1083 km d'autoroute et d'une ligne de chemin de fer. La compagnie pétrolière Total Gabon a réalisé un chiffre d'affaires de 655 millions de dollars en 2021, soit une progression de 51%. Selon le site spécialisé Cercle Finance qui relaie l'information, cette progression a été favorisée par la hausse significative du prix du brut commercialisé à environ 64,8 dollars par baril. Des Marocains ont manifesté dimanche dans plusieurs villes, notamment pour protester contre la hausse des prix. La sécheresse a porté préjudice à l'économie du pays et les Marocains ressentent également le poids des prix élevés du carburant.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Deuxième journée de la phase de poule des Coupes d'Afrique de clubs ce week-end. En Coupe de la Confédération, les Congolais du tout-puissant Mazembe n'ont pas pu enchaîner dans la poule C, battue 2-0 en Égypte par Al Masry. Le second match du groupe se joue ce mercredi au Congo-Brazzaville entre l'AS Otowo-Doyo et les Camerounais du Coton Sport de Garoua. Dans la poule D, la SEC d'Abidjan se relance. Les Ivoiriens sont venus à bout des Marocains de la Renaissance de Berkane 3-1. Les Tanzaniens de Simba ont été contraints au nul 1-1 au Niger par l'US Gendarmerie Nationale. Dans le groupe A, Pyramide d'Égypte a décroché sa deuxième victoire en deux matchs contre les Zambiens de Zanaco 2-0. En Ligue des Champions, dans le groupe A, pour son entrée, les Égyptiens d'Al Ahly, tenants du titre, ont été accrochés 0-0 au Soudan par Al Hilal. Même score entre l'autre club soudanais Al Merrikh et les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, toujours leader au classement avec 4 points. Le Raja de Casablanca domine le groupe B avec 6 points. Deuxième victoire cette fois-ci, 1-0. Devant l'entente de Sétif, une victoire qui n'a pas empêché le limogeage du coach belge du Raja, Marc Villemotte, qui était en poste depuis début novembre 2021. Ça se complique en revanche pour les Guinéens de Oroya qui ont essuyé leur second revers, 1-0 en Afrique du Sud face à Amazulu. Cyclisme, le Français Sandy Dujardin a remporté au sprint aujourd'hui la première étape du Tour du Rwanda. Le coureur de 24 ans s'est imposé devant son compatriote Axel Lorenz et le Colombien Jonathan Restrepo au terme d'une étape longue de 148,3 km entre Kigali et Rwamagana dans l'Est, temps mis 3h33 minutes 6 secondes. Au classement général, Alexandre Geniez, vainqueur hier du prologue, conserve la tête avec 6 secondes d'avance sur Restrepo et 7 sur Dujardin. Demain, la deuxième étape longue de 155,9 km amènera les coureurs des 19 équipes engagées dans cette 14e édition de Kigali à Rubavu. Cette course cycliste de 8 jours a lieu dans le pays hôte des Mondiaux sur route 2025. Basketball, 50 pions dans la musette, 16 tirs à 3 points réussis. Record de l'épreuve explosée, Stephen Curry a été en fait logiquement désigné MVP du All-Star Game 2022, remporté pour la 5e année d'affilée par Team LeBron. 163-160 aux dépens de la Team Durant hier à Cleveland. Le Camerounais Joel Embiid, l'homme fort de la saison, a inscrit 36 points et récupéré 10 rebonds. Lors de cette rencontre de gala, LeBron James et Michael Jordan ont été les plus acclamés avec Kobe Bryant, disparu tragiquement en janvier 2020 et dont le portrait est resté longtemps affiché sur les écrans géants.
Page des sports signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Mali, le Conseil national de transition qui tient lieu d'organe législatif depuis la prise de pouvoir par les militaires a voté pour modifier la charte de la transition qui précise désormais que la période transitoire prend fin avec l'organisation des élections. L'Assemblée maintient cependant le flou sur la date à laquelle des élections pourraient avoir lieu. La question donne lieu à un bras de fer entre les autorités maliennes et la CEDEAO et une partie de la communauté internationale. Pour une analyse, Yacouba Ogo a joint dans la capitale malienne le professeur Kissima Gakou, enseignant-chercheur à l'université de Bamako.
En fait, il y a fondamentalement quatre grandes modifications. D'abord, la suppression du poste de vice-président qu'occupait l'actuel président de la transition, colonel Assimi Goïta. Alors, ce poste est toujours resté, mais quand bien même lui, il est devenu président. La deuxième modification a porté le nombre de conseillers nationaux, si vous voulez, députés, entre guillemets, mais qui ne sont pas élus, de 121 à 147. Troisième modification, je crois aussi, va augmenter le nombre des membres du gouvernement. C'est-à-dire, la transition avait bouclé le gouvernement à 25 membres. Et là, il y a la possibilité de faire un remaniement et de prendre de nouveaux ministres. La quatrième modification, ça porte sur le délai de la transition. Sur cette partie, textuellement, il est marqué que la transition prendra fin avec l'organisation des élections générales, mais sans autre précision. À mon avis, il ne faut pas se hâter d'interpréter cet espace qui est laissé comme ça. Il me semble que c'est fait à dessein en attendant qu'un agenda consensuel soit trouvé entre le gouvernement de transition et la CEDEAO qui sont actuellement dans les négociations. Vous n'ignorez pas le problème qui a été créé par les rencontres précédentes.
Justement.
Et depuis lors, il y a une dynamique de dialogue qui tend à rapprocher les positions. Ce vide-là est laissé à dessein pour attendre l'agenda consensuel confirmé et le porter en ce moment dans le texte.
Les Assises nationales avaient proposé une période transitoire pouvant aller jusqu'à 5 ans. La junte avait promis de se plier à ce que les assises promettaient. Lorsque la précision n'est pas faite dans le texte touché de la charte de la transition, à quoi faut-il s'attendre?
Je comprends ce que vous voulez dire, mais je crois que ça, c'est un épisode qui est derrière nous. Parce que c'est l'épisode qui a créé tous les problèmes. Et vous comprendrez que les gens n'ont pas besoin de rester dans les problèmes. Et pour ça, ils ont mis en place des mécanismes de négociation pour rapprocher les points de vue. Les CEDEAO cherchaient un calendrier électoral. Le Mali a répondu, attention, nous, on est un pays qui sort d'une crise inédite. Ne nous amenez pas dans des élections tout de suite, surtout que le pays profond a besoin de s'exprimer et de dire ce qu'il veut faire de son État. Et c'est ça qui a conduit aux Assises nationales de la Refondation, qui elles-mêmes ont donné une fourchette de 6 à 5 ans. Maintenant, je répète, cette fourchette, effectivement, elle a été donnée, mais elle n'est plus de saison. Parce que la réalité a montré que cela n'est pas acceptable. Je crois que le gouvernement malien s'est ravisé aussi.
Dans une interview accordée par le président ghanéen Nana Akufo-Addo, il disait, parlant à son nom propre et pas en tant que président en exercice de la CEDEAO, que la transition ne saurait aller au-delà de 12 mois. Est-ce que vous pensez que la junte pourrait se plier à une telle proposition?
Il n'y a pas que Nana Akufo, mais les Algériens ont dit 16 mois. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses sur la table. Moi, je pense que ce n'est pas très, très intéressant de pinailler sur les dates. Le principe a été admis que le gouvernement malien n'est plus sur la position de dire qu'il faut strictement prendre les 5 ans. Ça, c'est passé, c'est révolu. Parce que c'est ça, en fait, le blocage. Tout le monde est d'accord pour sortir du blocage. On va patienter de voir ce que ça donne.
C'était le professeur Kissima Gakou, enseignant-chercheur à l'université de Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
L'homosexualité est criminalisée dans plus de la moitié des pays africains, y compris au Sénégal, où des groupes musulmans réclament néanmoins des peines plus sévères. Hier, des milliers de personnes se sont rassemblées à Dakar pour exiger des peines de prison plus longues. Un reportage d'Anika Ameshlag, relaté par Nathalie Barge.
Un groupe d'hommes en cercle brûle un drapeau gay, scandant que le Sénégal n'acceptera jamais l'homosexualité. D'autres tiennent des pancartes réclamant la fin de l'agenda LGBT. L'événement était organisé par des mouvements musulmans ultra-conservateurs qui affirment que l'homosexualité leur est imposée par l'Occident et qu'elle menace leurs valeurs traditionnelles. Ngomédia est étudiante et responsable du département féminin d'Ansam Djikoyi, le collectif d'associations islamiques qui a organisé l'événement.
Nous voulons tout simplement que le gouvernement criminalise l'homosexualité, comme il a criminalisé le viol, comme il a criminalisé le vol de bétail. Qu'il soit emprisonné, même si c'est à perpétuité, le Sénégal est un pays homophobe et nous sommes fiers de le dire.
Le code pénal punit déjà l'homosexualité d'une peine jusqu'à 5 ans de prison et d'une amende jusqu'à 1 500 000 francs CFA, mais les militants anti-gays affirment que la loi n'est pas appliquée. Un projet de loi qui aurait augmenté la peine de prison de 5 à 10 ans a été rejeté par les législateurs en janvier. Ibrahim Assissé, un ouvrier du bâtiment, a assisté à l'événement.
Tout le monde sait maintenant que les Africains sont réveillés. Les Européens ont maltraité les générations plus âgées avec l'esclavage. Mais maintenant, la jeunesse africaine sait ce qu'elle veut et prendra ses propres décisions.
En mai dernier, le collectif musulman a organisé un rassemblement similaire qui a également attiré des milliers de manifestants. Dans les semaines qui ont suivi, les militants LGBTQ ont signalé une augmentation des agressions. Souleymane Diouf est le président du groupe de défense des droits LGBTQ Free Sénégal. Il utilise un faux nom pour protéger son identité.
Je risque pas de me faire assassiner, je risquerai peut-être de me faire assassiner en Europe. C'est juste une question de temps pour des personnes comme moi. Mais ça ne va pas nous empêcher de lever la voix et de dire que ce qui se passe au Sénégal entre dans le cadre du terrorisme, mais ce n'entre pas dans le cadre en fait, d'une principe religieuse.
Le militant dit avoir survécu à 2 tentatives d'assassinat, ce qui l'a conduit à se réfugier en France. Mais il affirme recevoir encore des messages de personnes qui menacent sa petite fille qui est au Sénégal. Le problème, dit-il, c'est que les jeunes sont radicalisés par des organisations terroristes dont l'influence s'est rapidement propagée dans toute la région du Sahel.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Gabon, l'auto-emploi a un nouveau visage. Des jeunes désœuvrés se sont offert une activité rémunératrice de revenus. Ils assurent la régulation et le gardiennage de véhicules d'usagers. Focus sur ces enfants qui ont eu un passé difficile dans la rue, mais qui sont aujourd'hui en pleine reconversion. C'est un reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
J'ai beaucoup dormi dans la rue. Je suis venu dans la rue, j'avais pratiquement 17 ans. Aujourd'hui, j'ai 37 ans. J'ai fait la prison.
Éric Indoum, serval de son petit nom, se relève d'un passé peu glorieux qui l'obligeait à voler pour subvenir à ses besoins. Mais depuis près de 10 ans, il est à la tête d'une organisation informelle de régulateurs de véhicules sur les grandes artères de Libreville.
Avec mes potes, c'est quoi? On a instauré un système du genre, hein? Chacun son tour de parquer le véhicule. Et maintenant, s'il y a un espace, celui-là qui veut, n'est-ce pas, m'aider, on le parle une, deux fois. Avant d'appeler la police, on te baston d'abord avec les mains. Ah, c'est la rue, c'est la street.
Dans la rue, ces enfants ont en effet tout expérimenté. Bataille rangée et vol à l'arraché avant cette reconversion inespérée. Roy Maganga, devenu gardien de parking, invite d'autres jeunes à travailler.
Ils doivent travailler, ça ne sert à rien de braquer. Parce que imaginons que tu braques ta mère, ou bien on braque ta mère, comme tu es braqueur, tu vas faire comment?
Les difficultés traversées ont servi de leçon à tout un chacun. Lilian Essono veut ouvrir une nouvelle page de sa vie.
On a des enfants aujourd'hui, on a des charges, donc du coup, on est obligé d'être là. Ces gens de bonne foi qui nous payent ici. Ce n'est pas tous qui sont censés garer ici qui nous payent. Il y a d'autres qui disent qu'ils payent des taxes. On n'oblige à personne de nous payer.
Pas loin de là, Jean de Dieu Anguilé vient d'empocher 500 francs CFA après avoir aidé un automobiliste à se garer en face du commissariat central de Libreville.
Par jour, tu rentres avec 2000. Comme par jour, tu peux entrer avec 15 000. Une personne de bonne foi peut te remettre 5 000 comme un coca.
L'offre de service de ces jeunes débrouillards séduit et rassure les usagers du secteur administratif de la capitale.
Ils viennent un peu comme en appui au travail qui est en train d'être mené par les forces de police nationale. Mais je crois que, avec ce qu'ils font aujourd'hui, il y a une fluidité au niveau de la circulation. Les véhicules sont bien gardés, on retrouve les objets. Il y en a qui retrouvent leur téléphone portable à l'intérieur de leur véhicule, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années.
La délinquance urbaine n'a certes pas cessé à Libreville, mais la surveillance quasi permanente des véhicules par ces jeunes permet de limiter les braquages et les vols à l'arraché sur les artères de la capitale gabonaise. Libreville, Ismaël Obionzi pour VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie a prolongé dimanche ses exercices militaires en Biélorussie, le long de la frontière nord de l'Ukraine, après 2 jours de bombardements soutenus dans l'est de l'Ukraine entre les séparatistes russes et les forces ukrainiennes. Cela survient au moment où les Américains continuent d'avertir qu'une invasion russe de l'Ukraine pourrait intervenir bientôt, Moscou ayant amassé plus de 100 000 soldats à la frontière. Arash Arabassadi de la VOA nous en dit plus. Le récit est de Gabi Dorsil.
Une vidéo récente du ministère russe de la Défense montre le lancement de missiles balistiques intercontinentaux Yars tirés depuis la Russie. Le Kremlin soutient que ces exercices de préparation militaire et les plus de 100 000 soldats massés le long de la frontière ukrainienne ne représentent aucune menace pour son voisin, que la Russie dit ne pas avoir l'intention d'envahir. Aux États-Unis, la poussée diplomatique se poursuit au milieu des appels croissants du Congrès à imposer des sanctions paralysantes à la Russie. Dimanche, le secrétaire d'État Anthony Blinken a déclaré sur la chaîne NBC que la Maison-Blanche espère malgré tout une solution diplomatique.
Tant que les chars ne sont pas encore en mouvement et que les avions n'ont pas encore décollé, nous allons tout essayer pour que le président Poutine revienne sur la décision que nous pensons qu'il a prise. Nous continuons à essayer de construire tout ce que nous pouvons pour le détourner du parcours sur lequel il s'est engagé. Et jusqu'à la dernière minute, il a encore la possibilité de retirer ses troupes.
La Russie a démenti à plusieurs reprises les allégations selon lesquelles elle prépare une invasion de son voisin, l'Ukraine. Toutefois, les bombardements survenus la semaine dernière dans l'est de l'Ukraine, près des zones soutenues par les séparatistes russes, marquent une escalade des tensions. Lors d'une récente conférence de presse à Moscou, le président Vladimir Poutine s'en est pris aux membres de l'OTAN pour ne pas avoir pris en compte les préoccupations de son pays pour sa sécurité. Une accusation que rejettent les États-Unis. Sur la chaîne ABC, l'ambassadrice intérimaire de Washington en Ukraine, Kristina Kavin, a déclaré que l'administration Biden a fait montre de bonne foi dans cette crise.
Nous pouvons répondre à certaines de ses préoccupations en matière de sécurité. Nous lui avons donné des documents relatifs et ce serait vraiment une décision facile pour lui. Il ne lui reste plus qu'à décider d'emprunter la voie diplomatique.
Alors que les deux s'engagent publiquement à ne pas envisager d'envahir l'Ukraine, la Russie et son voisin, la Biélorussie, poursuivent des exercices militaires conjoints juste au nord de la frontière ukrainienne. Voici comment Anatoly Antonov, ambassadeur russe à Washington, a résumé sa position dans une émission de la chaîne CBS.
Il n'y a pas d'invasion et il n'y a pas de tel plan. Cela a été fixé dans des documents russes que nous avons transmis à nos amis américains et au département d'État. La Russie a déclaré publiquement qu'elle était prête à poursuivre ses efforts diplomatiques pour reprendre toutes les questions en suspens. Les troupes russes sont sur le territoire russe souverain. Nous ne menaçons personne.
We don't threaten anyone.
Les soldats américains de la 101e division aéroportée, qu'on a vu récemment se déployer du Kentucky vers l'Europe, sont une démonstration continue de soutien aux alliés de l'OTAN. La principale demande de la Russie à l'Occident est que l'Ukraine ne soit jamais autorisée à entrer dans l'OTAN, ce que les États-Unis jugent inacceptable.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.